L'essentiel sur les métamorphoses du moi. Question 9. Qu'est-ce que le moi ? Quand au XVIIIe siècle se développe la notion d'individu, l'homme ne se définit plus exclusivement par rapport à un groupe auquel il appartient ou dans son rapport à Dieu, mais en tant que singularité. Or, selon Schopenhauer, cette singularité ne se perçoit pas tant dans ce qui constitue notre corps, voué à une évolution inexorable, que dans le principe de volonté qui nous dirige. Ce moi sera perçu comme libre et mouvant par Bergson, unique par Stirner. Mais ce sont surtout les théories de Freud, inventeur de la psychanalyse, considérant que l'être psychique est divisé en plusieurs instances, qui vont bouleverser la perception et, partant, la définition du moi. Certains penseurs, cependant, remettent en cause le concept même du moi. C'est le cas de Nietzsche, qui rejette l'idée d'un « je pensant », tandis que Sartre condamne notre mauvaise foi qui nous amène à dévoyer notre liberté au profit d'une fonction que l'on joue. Question 10. Saisir le moi, une quête impossible ? De nombreux auteurs ont tenté au fil des siècles de circonscrire et de définir le moi dans leurs œuvres. On considère souvent que Rousseau, se prenant comme modèle d'observation, a rédigé le premier ouvrage ouvertement autobiographique, dans lequel il exprime les difficultés à se saisir lui-même. Mais ses recherches prennent aussi d'autres voies, et les récits fantastiques, comme ceux de Maupassant, permettent à leur auteur de s'interroger sur ce moi mouvant, et dont les limites impalpables mènent parfois aux confins de la folie. Une folie que Rimbaud éprouve, à sa manière, dans son entreprise de dérèglement de tous les sens, qui devait faire de lui un poète revendiquant une liberté qui annonce les travaux des surréalistes dont il fut un modèle d'inspiration. Pour d'autres encore, tels Oscar Wilde ou Jean-Paul Sartre, la saisie du moi ne peut se faire qu'au travers du regard que l'autre porte sur soi, un regard souvent contraignant, voire infernal. Question 11. Y a-t-il un conflit irréductible entre l'individu et la société ? Les liens entre individu et société sont au cœur des réflexions philosophiques, en particulier depuis le XVIIIe siècle. Pour certains, comme Bergson ou Kant, la vie en société est l'aboutissement naturel de l'élan vital animant les hommes, et c'est forcément en société que l'homme s'épanouit. Cette société, affirme Durkheim, peut être organisée selon deux formes principales de solidarité, c'est-à-dire deux types de liens particuliers liant les hommes entre eux, une solidarité mécanique et une solidarité organique. Nietzsche a lui aussi défini deux types de sociétés. Dans l'une, les hommes sont des pierres différentes d'un même édifice, tandis que dans l'autre, les sociétés modernes, l'homme s'individualise pour jouer un rôle qui lui est propre. Nietzsche a perçu avec acuité les tendances d'une société moderne née avec les Lumières, la Révolution française, l'industrialisation et la montée des nationalismes. Cette forme d'individualisme naissant avait déjà été mise en lumière par Tocqueville, pour qui elle est le fruit des démocraties modernes. Pour autant, les liens entre individus et société sont parfois porteurs de frustration, car d'une part, selon Freud, vivre parmi les nôtres oblige à réfréner certaines de nos pulsions, d'autre part, car notre bonheur dépend en partie de notre lien aux autres, selon Kropotkin. Question 12. Quelles révélations apportent les métamorphoses du moi ? Le moi est une instance mouvante, dont la saisie n'est jamais complète. Certains auteurs, pourtant, parviennent au fil des différentes métamorphoses à atteindre des états de révélation. C'est le cas de Michel Léris qui évoque dans son autobiographie l'instant où il a résolu de grandes énigmes de son enfance. Pour d'autres, comme le poète Henri Michaux, la révélation du « qui suis-je » doit passer par un exercice de dépouillement de soi, par un retour à une forme d'humilité qui passe par l'introspection et le détachement. Certaines révélations, cependant, se révèlent insupportables, parce qu'elles mettent au jour ce que nous sommes. C'est bien sûr le cas du dévoilement de l'identité d'Œdipe, un mythe souvent convoqué, qui permet de nous interroger sur la construction de notre identité dans nos rapports familiaux, mais permet aussi d'interroger, pour Michel Fabien, la posture de femme et de mère. Mais le plus important pour des penseurs comme Daumal et Camus, c'est qu'une fois opéré le mouvement de conscience qui nous permet d'être lucides sur notre présence au monde, nous restions dans cet état d'éveil définitif, ce dont nous ne sommes pas tous capables.